Seigneur, tu dis dans ce texte que nous avons déjà lu que ton peuple du passé, le peuple d'Israël, t'ont abandonné, toi la source d'eau vive. Et donc, donne-nous de comprendre à quel point en Jésus-Christ nous trouvons cette source d'eau vive et que par la foi en lui, nous puissions donc vivre aujourd'hui pour te glorifier, pour t'honorer. Et donne-nous donc d'être un peuple établi en Jésus-Christ. Et cela pour ta gloire, nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, chapitre 4, les amis, chapitre 4, versets 5 à 17. Faites cette annonce en Juda. Faites-la entendre à Jérusalem. Dites-le, sonnez de la trompe dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous. Et allons dans les villes fortes. Dressez une bannière vers Sion, fouillez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord un malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il sort de chez lui pour réduire ton pays en un lieu dévasté. Tes villes seront des champs de ruines, elles n'auront plus d'habitants. À cause de cela, mettez un sac pour pain, lamentez-vous, hurlez, car la colère ardente du Seigneur ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, déclaration du Seigneur, le roi et les princes perdront courage, les prêtres seront atterrés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur Dieu, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant « Tu t'iras bien pour vous » alors que l'épée est déjà sous la gorge. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem « Un vent brûlant souffle sur les pistes du désert, sur le chemin de la belle de mon peuple. Ce n'est pas pour vanner ni pour nettoyer. C'est un vent impétueux qui vient de là-bas sur mon ordre. Maintenant, c'est moi qui va prononcer des jugements contre eux. Ils montent comme les nuages. Ses chars sont comme un ouragan. Ses chevaux sont plus rapides que des aigles. Quel malheur pour nous. Nous voilà ravagés. Lave ton cœur de ce qui est mauvais, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand feras-tu reposer en ton sein des pensées malfaisantes? Car depuis Dan, un bruit l'annonce, une rumeur funeste depuis la région montagneuse d'Éphraïm. Rappelez ceci aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'un pays lointain. Ils font retentir la voix contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est rebellée contre moi. Déclaration du Seigneur. Voilà ce que t'ont valu ta voix et tes agissements. C'est là ton mal. Oui, c'est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Alors jusque-là, les amis, cette lecture de Jérémie, j'espère qu'on voit déjà que nous sommes dans cette première partie de Jérémie, dans une partie qui annonce le jugement. Et on arrivera à ça. Dans le plan, vous pouvez voir qu'on arrive à ce chapitre 4 dans notre deuxième point. Mais on va prendre d'abord un temps pour parler de cette relation brisée. Parfois dans le milieu chrétien, on parle d'une relation avec Dieu ou ma relation avec Jésus. Et pour quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce milieu protestant évangélique, cela peut paraître étrange. Je me souviens de mon beau-père qui était un jour un peu vexé lorsque son pasteur à lui avait demandé comment allait sa relation avec Jésus. Alors à ce moment-là, ce n'était pas un langage que mon beau-père reconnaissait, bien qu'il soit lui aussi chrétien. Dans le milieu d'où il venait, une telle question n'était pas très british et pas très discret. Et lorsqu'il m'avait raconté cela il y a quelque temps maintenant, il avait dit au sujet de cette question pour lui, bizarre et intrusive, « Quelle impertinence qu'il me pose cette question-là !» La question était bien intentionnée, certes, mais on peut comprendre que le langage cloche, surtout si nous venons d'un milieu Une autre réflexe, c'est de privilégier un langage respectueux plutôt que familier lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on pense à Dieu. Dieu, pour beaucoup, et la Bible l'affirme, il est saint, il est souverain, il est transcendant, il est grand. Et nous devons, dans cette façon de penser, oui, lui obéir, l'honorer, le servir, tout ça, oui. Mais lorsque nous parlons également, comme le Nouveau Testament parle, de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de lui parler, de prendre du plaisir à le contempler, ce sont là des verbes qui témoignent quand même d'une certaine relation avec le Dieu qui nous a créés. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ rend effectivement une telle relation possible. Bien que Dieu n'ait jamais réduit à un simple pote qu'on côtoie, avec qui je m'entends bien, oui, ma relation avec Jésus, c'est cool, c'est mon ami. Non, cela n'est pas un langage biblique. Mais si Dieu est souverain et transcendant, il est en même temps proche, immanent, on utilise ce terme-là. Il nous connaît, il nous invite à le connaître, à découvrir sa bonté, sa grâce, sa patience, sa miséricorde, l'espérance qui s'attache à son appel. Tout cela à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Jésus, Dieu, s'est révélé définitivement à nous en Jésus-Christ. Et donc, si vous êtes là en visite ou si vous venez d'une certaine manière d'atterrir dans notre Église, nous sommes contents que vous soyez avec nous. C'est bien ce Dieu dont je viens de vous parler que nous aimerions que vous vous découvriez, vous approfondissez votre connaissance de ce Dieu-là, de par la révélation de ce Dieu-là, la révélation de lui-même dans sa parole, y compris la parole du prophète Jérémie. Donc nous sommes au début d'une série qui va durer pour quelques semaines, même plusieurs semaines. C'est ça ce qui est programmé. Jérémie, qui se situe dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, le peuple de Dieu, Israël, demeurait dans la terre promise sur base de la relation que ce peuple avait avec Dieu. Dieu avait dit à ce peuple, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Une relation donc entre Dieu et son peuple. Et le prophète Jérémie, il intervient à un moment où cette relation va mal, très mal, à un point que Jérémie annonce que Dieu permettra qu'un autre peuple, qui n'est pas le peuple de Dieu, viendra du nord, prendre possession de la terre promise. Israël sera exilé, loin de la présence de Dieu. Et comme il s'agit d'un Dieu relationnel, Dieu, ici, dans le chapitre 2 de Jérémie, que Fabrice a lu pour nous, il se sert de la symbolique du mariage pour décrire sa relation avec son peuple. Lui le marié, son peuple Israël, Juda, l'a marié. Cela rend son exposé de ce qui ne va plus dans leur relation, plus personnel d'une certaine manière, plus accessible même pour nous encore aujourd'hui. Car cela est une image que nous pouvons, je pense, tous comprendre lorsqu'une relation ne tourne pas bien au sein d'un mariage. Cette difficulté relationnel au sein du mariage, beaucoup d'entre nous, nous le connaissons, ou nous comprenons au moins ce que cela pourrait être. Et dans notre premier point que vous voyez sur le plan, nous invite à faire l'analyse de cette relation brisée de Dieu avec son peuple. Après avoir parcouru cette analyse, ces trois points, vous voyez cela, proximité, abandon aveuglement. Ben, nous prenons une petite pause et nous posons cette question, et nous, dans tout cela. Mais d'abord, on fixe notre regard sur Israël, sur Juda, le peuple de Dieu, auprès de qui Jérémie parle. Première étape que Jérémie donc évoque, c'est la proximité, l'intimité qu'il y avait dans cette relation au départ. Donc nous sommes maintenant dans le chapitre 2. Chapitre 2, verset 2. « Va, crie à Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de ta fidélité de jeune fille, de ton amour de jeune mariée, quand tu me suivis au désert, sur une terre où rien ne pousse. » Donc avant d'entrer dans la terre promise, le peuple dépendait entièrement de leur Dieu qui les a appelés d'Égypte pour le suivre. Ce peuple dépendait de Dieu pour tout. Verset 3, Israël était un bien sacré pour le Seigneur. Les prémices de sa récolte, tous ceux qui ont mangé se mettaient en tort. Et le malheur fondait sur eux, déclaration du Seigneur. Donc Dieu a accordé sa protection à son peuple contre ses ennemis, car Dieu chérissait ce qui lui était précieux, comme les prémices de sa récolte. Ça nous rappelle Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant la chute. Il y avait là une dépendance de Dieu, une joie de connaître la bénédiction de Dieu et de sa protection. Mais nous voici bien des années après leur entrée dans le pays, ici dans le prophète Jérémie, et cette belle proximité n'y est plus. Pourquoi ? Alors, c'est ici où Jérémie prendra du temps pour décortiquer cela. Il y avait l'abandon de la part du peuple. On voit cet abandon tout au long de ce chapitre 2. Vers le début, verset 5, parlez pour s'éloigner de moi. Vers la fin, verset 29, vous vous êtes tous révoltés contre moi. Et au milieu, verset 13, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et donc, au cœur de cet abandon, il n'y a pas de doute intellectuel, ni un désir de réfléchir de manière raisonnable à propos de leur comportement envers leur époux. Non, il y a tout simplement un désir insatiable d'autre chose que Dieu lui-même. Et cela, je pense, se voit lorsque Dieu expose des questions au peuple de Dieu qu'ils auraient dû eux-mêmes poser. Donc, les questions que le peuple aurait dû se poser. L'étape suivante. D'abord, le verset 6. Ils n'ont pas dit « Où est le Seigneur qui nous a fait monter d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de plaine aride et de fosse, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe, où n'habite aucun être humain. » Voilà, le Seigneur les a protégés pendant cette période. Mais au lieu de poser la question, il l'ignore. S'ils avaient posé cette question, il y a déjà la réponse, n'est-ce pas? Ce serait une folie pour nous de se détourner de lui, parce qu'il a pris et il prend bien soin de nous. Ensuite, il y a le verset 8, la question que les prêtres ne posent pas, les prêtres ne disent pas « Où est le Seigneur ?» Ben, c'est choquant que même les prêtres ne cherchent pas Dieu. Ceux qui devaient instruire le peuple, ceux qui jouaient le rôle d'intermédiaire entre le peuple et leur Dieu, ces spécialistes de la loi de Dieu, le verset continue, ne me connaissent pas. Et il ne s'agit pas uniquement des prêtres, mais tous les responsables, parce qu'il dit, les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes parlent par Baal. Ils suivent ceux qui n'ont aucune valeur. Vous voyez à quel point c'est pourri au sein d'Israël à ce moment-là. Rien ne va plus. Au lieu de chercher le Seigneur, ils cherchent ailleurs. Et si nous regardons de près les questions que le Seigneur, lui, il pose à son peuple, je pense que nous puisons là les profondeurs de cet abandon. Voyons sur trois phases les questions que le Seigneur pose à son peuple par rapport à son idolâtrie, par rapport à son état pitoyable et par rapport à ses vaines recherches. D'abord donc son idolâtrie. Quelle est la question, verset 11? Une nation change-t-elle de Dieu? Pourtant, ce ne sont pas des dieux. Donc déjà, il dit les nations autour d'Israël, des nations païennes, qui ont des dieux, qui pourtant, pour Israël, ne sont pas des vrais dieux. Eux, ils ne changent pas leur non-dieu d'une certaine manière. Mais, dit le Seigneur, lui qui est véritablement Dieu, mon peuple, lui, a échangé, alors d'un côté quoi, sa gloire, contre de l'autre côté, ce qui n'a aucune valeur. Bon, quel terrible échange, n'est-ce pas? Quand des idoles, des choses qui ne sont pas Dieu, mais à qui ou à quoi nous attribuons la puissance de Dieu, des choses qui demandent dans mon allégeance, qui occupent le plus haut rang ici dans mon cœur, ces choses-là n'ont pas la même valeur que Dieu, parce que Dieu est le créateur de toutes ces choses-là. Verset 12, « Sois-en atterré, ciel, frémis et dessèche-toi, déclaration du Seigneur, car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Comme dit un commentateur sur ce verset, une source d'eau vive vaut beaucoup mieux déjà que l'eau retenue dans une citerne. C'est le cas, n'est-ce pas? Vous vous promenez en vacances et vous arrivez à une source d'eau fraîche. Au lieu de prendre l'eau qui se trouve dans la citerne, ben vous prenez l'eau fraîche. Mais ici, ils disent en plus, si la citerne est fissurée, elle est bel et bien parfaitement inutile. Et pourtant, c'est ça ce qu'on fait Judas, le peuple de Dieu. Et le verset 20 et suivant évoque cet abandon de façon relationnelle. Depuis longtemps, verset 20, « Tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit, je ne servirai plus. Sur toute colline élevée, sur tout arbre verdoyant, tu t'étends prostituée. » Elle a cherché, Judas, son plaisir ailleurs. Verset 23, « Comment peux-tu dire, je me suis rendu impur ?» Je ne me suis pas rendu impur. Je n'ai pas suivi les bas. Regarde ton chemin dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Chamelle léger qui vagabonde. C'est parlant, n'est-ce pas, cette image? Ânesse sauvage habituée du désert, haletant dans l'ardeur de son désir. Qui pourra réfréner son rut? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à s'épuiser. Ils la trouvent pendant son mois. À quel point elle désirait autre chose que Dieu. Israël est comme ça, cherchant tout genre de partenaire, sans réfléchir à ce qu'elle fait, dictée par ses désirs, cherchant désespérément à gauche et à droite le plaisir et le contentement, mais pas dans le Dieu qui les a rachetés d'esclavage, qui les a amenés dans la terre promise. Et dans verset 25, « Arrête-toi, sans quoi tu finiras nu-pied, et le gosier sec. » Mais tu dis, à quoi bon? Moi, j'aime les étrangers. Je veux les suivre. Comme un voleur à honte lorsqu'il est découvert. Ainsi, la maison d'Israël se couvre de honte. Eux, le roi, le prince, le prêtre, le prophète, eux qui disent un morceau de bois, une idole qui n'est pas Dieu, tu es mon père, et à une pierre, un objet inanimé. Tu m'as engendré, car ils ne m'ont pas présenté leur face, mais leur dos. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous !» Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait, qu'ils se lavent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes Ça, le peuple de Dieu, du seul, unique Dieu. Tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Donc voilà de l'idolâtrie au sein de Juda à cette époque. Elle qui a connu le Seigneur, qui a eu accès à la source d'eau vive, son idolâtrie. C'est la partie la plus longue pour vous encourager, chers amis. Deuxième aspect, là où le Seigneur pose une question à Israël, à Juda, verset 14, son état pitoyable. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il livré au pillage? Quel état pitoyable! Car justement, Israël était, avant d'entrer dans la terre promise, esclave en Égypte. Et puis, comme le prophète Osée l'avait dit, j'ai appelé mon fils Israël à sortir d'Égypte. Il n'était pas esclave, son peuple, mais fils, chéri par Dieu, racheté par Dieu en tant que fils, pour lui appartenir. Mais son abandon a fait de lui encore esclave, esclave à ses idoles. Aucun repère au sein d'Israël, donc à la proie de ceux qui profitent de ses désirs déplacés. Et le verset suivant parle de jeunes lions qui rugissent. Ça nous mène à la troisième question. Verset 18, ces lions se révèlent être les pays autour d'Israël. L'Égypte au sud, la Syrie au nord. Qui parle de la Syrie, c'est parce qu'à ce stade, ce n'est pas encore le cas que Babylone a le devant. Donc c'est assez tôt dans le ministère de Jérémie, ici au chapitre 2. Verset 18, « Et maintenant, que fais-tu sur le chemin de l'Égypte? Vas-tu boire l'eau de Chior? » C'est un étang en Égypte. « Que fais-tu sur le chemin d'Assyrie? Vas-tu boire d'eau du fleuve? » Le fleuve de l'Euphrate en Assyrie. Le Seigneur t'avait délivré d'Égypte et maintenant tu y retournes. C'est désespérant, c'est pitoyable. Et donc, pas de surprise lors de la dernière étape de cette relation brisée de comprendre il y a un aveuglement. Car oui, il y avait proximité, ensuite abandon et à l'heure actuelle du côté de Juda, il n'y a que aveuglement. Aveuglement. Verset 32. La jeune fille oublie-t-elle sa parure, la mariée, sa ceinture? Je pense que cette image-là est même parlante dans notre époque, n'est-ce pas? Le symbole le plus fort d'une alliance entre un homme et une femme reste la bague. L'alliance que la femme, et ici en Belgique et maintenant un peu partout en Europe, l'homme aussi porte. Moi, je luttais pour ne pas porter ça, parce que ce n'était pas dans ma culture à moi. Et donc, lorsque enfin j'ai décidé avec mon épouse d'acheter une bague, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je l'ai perdue et cela est tombé dans le jardin. Et ça a pris 10 ans pour que mon épouse creuse pour planter une plante où elle trouve enfin la bague. Donc, maintenant, je la mets. Donc, merci à elle. Ne pas savoir où se trouve ta bague, oublier de la mettre si nous sommes mariés, parce que c'est mauvais signe, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans cette relation. Dieu continue, mon peuple, lui, m'a oublié depuis des jours sans nombre. Et parce qu'ils ont mis Dieu de côté, ils glissent, oui, vers des pratiques d'injustice. Verset 34, jusque sur les pans de ton vêtement, on retrouve le sang des pauvres, des innocents, que tu n'as pas surpris en flagrant délit d'effraction. Voilà ce qui te perd. Oui, perdre le respect pour Dieu, et c'est plus facile de perdre un regard pour mon prochain. Car mon prochain aussi est celui créé à l'image de Dieu, qui porte donc la dignité de Dieu. Et malgré tout ceci, Juda réagit comme si ce qui lui arrive est incompréhensible. Verset 35, « Et tu dis, je suis innocente, que sa colère se détourne de moi. » Et là, elle fait preuve d'un endurcissement de cœur qui ne cherche pas à comprendre ce qui a lieu. Qu'attend Judas? On tournera notre regard vers cela dans un instant, mais voici la suite du verset 35. Eh bien, j'entre en jugement avec toi, puisque tu dis, oh, je n'ai pas péché. Le chapitre 4, on dira plus. Mais voilà donc pour cette analyse de cette relation brisée. Jusqu'ici, c'est comme si nous sommes spectateurs d'un film qui évoque le brisement d'une relation d'amour. Cela est triste, peut-être en pleurs devant l'écran, parce qu'on est ému par ce qu'on voit. Cela fait exprès que nous ressentons lorsque nous lisons de telles choses. Nous aussi, cette émotion, lorsque nous rentrons dans cette histoire de relations brisées, d'amour rejeté. Mais alors, qu'en est-il de nous? Sommes-nous simplement des spectateurs ici ce matin? Sommes-nous encore concernés par tout cela? Alors d'abord, un mot à ceux qui, pour n'importe quelle raison, diraient qu'ils ne sont pas, hein, à l'heure actuelle, disciples de Jésus-Christ, membres donc du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, de l'Église de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Ben, vous devez comprendre qu'une description employée par la Bible pour décrire ceux qui ne servent pas le Dieu vivant et vrai, c'est celle de l'idolâtrie. Oui, encore aujourd'hui, c'est possible d'être idolâtre. Il y a un texte dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, qui dit, de fait, on raconte à notre sujet quel accueil, il parle des nouveaux chrétiens, quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc vous entendez, il y a un changement. On se tourne. Ici, on était vers des idoles. Et maintenant, nous nous tournons vers Dieu. On abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Qu'est-ce qu'une idole encore? Quelque chose dans laquelle je place ma plus haute confiance. Dans le sens où c'est cette chose-là, ou même cette personne-là, qui oriente au-dessus de tout autre mon comportement. Mes objectifs, l'emploi de mon temps, là où j'oriente mon cœur. Et il faut savoir que la chose, l'idole en elle-même, n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais élever quelque chose que Dieu a créé à la plus haute place, au-delà donc de Dieu, au-dessus de Dieu lui-même, qui lui est créateur, pour servir, pas Dieu, mais cette chose-là, c'est là où la chose devient une idole. C'est d'accorder à ce Dieu une puissance qu'elle n'a pas réellement, quand il n'y a qu'un seul Dieu. Le Nouveau Testament parle de l'homme qui a sa conduite avant d'être disciple en Jésus-Christ, qui a sa conduite dictée par les désirs de sa chair, de sa nature propre en tant qu'homme. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine, de nos pensées. Donc nous sommes dictés par des choses qui ne sont pas Dieu, comme Judas. L'homme se comporte en fait comme notre premier représentant en tant qu'homme, Adam, se comportait dans le jardin d'Éden. On a vu ça hier avec les hommes lors de notre petit déjeuner. L'homme abandonne de nature le Dieu créateur, pour les désirs de notre condition humaine. Alors j'aimerais qu'on prenne un exemple concret, si vous le permettez. On aurait pu prendre différents exemples, mais j'essaie de trouver un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Imaginons que notre idole, c'est le travail, c'est ma carrière professionnelle. En soi, il faut savoir que le travail est bon, est créé par Dieu. Nous sommes créés par Dieu pour travailler. C'est une bénédiction d'avoir un travail. Nous prions pour ceux qui sont au chômage. Mais combien c'est facile de faire de notre travail une idole, de vivre toujours à la lumière de ce que mon travail, ma société, mon entreprise me demande, de chercher à tout prix à réussir d'un point de vue professionnel, parce que c'est là où je place mon identité la plus profonde. Si je ne suis pas bon pour cela, je suis bon pour rien. Je ne peux pas me tenir avec fierté devant les autres si j'échoue dans le domaine de mon travail. Et parce que cela, c'est la plus haute ou plus haut désir que j'ai, alors négliger toute autre responsabilité que j'ai, c'est légitime, parce que c'est surtout là que je mets la chose la plus importante. Donc ainsi, le travail, parfois, peut me demander toute mon énergie, ou dépend d'autres responsabilités. Je peux négliger mes autres responsabilités, famille, différentes relations, voisinage, etc., sur l'autel d'être toujours surchargé au travail, toujours en train de me sacrifier pour mon entreprise. Et pendant un temps, ça va bien, parce que nous aimons être utiles, nous aimons le buzz et l'énergie qui découle de mon activité professionnelle, de la reconnaissance que j'ai de par ce que je fais lorsque je travaille. Mais on attend encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Que découvrent ceux qui ont fait de leur travail une idole? Ils sont tout d'un coup hors circuit parce qu'ils ne travaillent plus. Le téléphone ne sonne plus. Il n'y a plus d'emails qui leur rend utile. La société n'a tout d'un coup plus besoin de moi. Le monde tourne sans moi. Et je me dis, pendant X années, j'ai tout sacrifié pour cela et je me retrouve maintenant dans une situation que la famille autour de moi, à son tour, aussi idolâtre, me néglige et je me retrouve seul. Vous serez étonnés, chers amis, de savoir combien de personnes aisées à Bruxelles, en Belgique, terminent la vie très, très seules. Car l'idole du travail se révèle être une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. On a placé tout notre espoir là. Mais le travail n'est pas prévu par Dieu pour pouvoir contenir tout notre espoir. Jamais Dieu a désigné le travail à être à la hauteur de donner suite à l'épanouissement de l'homme. Que font souvent de telles personnes lorsqu'ils sont face à cela? Ils cherchent tout d'un coup désespérément le bonheur dans d'autres idoles. Les loisirs de la retraite, le sport, le golf, une nouvelle femme, peu importe. Les idoles, ultimement, se révèlent inutiles pour nous sauver. Au lieu de nous tourner vers le Dieu créateur, lui seul à la hauteur de répondre aux besoins de mon âme, je continue, vous voyez, à être dicté par les désirs de ce que je vois, qui offre dans le court terme une certaine satisfaction. Alors la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous appelle, que nous soyons clairs là-dessus, à nous détourner de nos idoles vers le Dieu vivant et vrai. Et donc au lieu d'être la proie de nos vaines idoles, de tout sacrifier à l'autel de ces idoles, nous pouvons plutôt trouver une sécurité et une espérance qui durent de par la foi en Jésus-Christ. Jésus disait que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternel. C'est Dieu qui est Dieu, qui est à la hauteur de nos attentes les plus profondes. Les idoles ne peuvent pas jouer cette fonction-là. Et ce n'est pas que je me dis, oui, oui, c'est très bien, mais je suis chrétien, moi je sais cela. Mais le chrétien doit aussi garder son cœur de l'idolâtrie, vous savez. Nous devons, selon le Nouveau Testament, fuir l'idolâtrie. Nous devons écarter donc cette petite voix diabolique qui chuchote parfois dans l'oreille et qui nous dit, vas-y, vas-y. Si seulement tu avais ça, que ce soit un conjoint ou un travail, une nouvelle voiture ou que sais-je encore, si seulement tu as ça, tu serais heureux. Oui, il faut abandonner Dieu parce que tu veux ça. C'est ça ce qui compte. Et c'est faux. C'est un mensonge. Nous sommes, dans l'Église de Jésus-Christ, exhortés à découvrir le contentement, pas dans ce que des idoles sont en pouvoir me donner, mais dans ce que j'ai déjà reçu en Jésus-Christ. Ce même verset 1 Thessaloniciens, chapitre 1, parle de ce que nous pouvons faire grâce à lui. Nous pouvons attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors ça nous mène à notre point 2. J'aimerais vous encourager que le point 2, c'est presque la fin, et le point 3, c'est rien que la conclusion. Donc tenez bon si vous êtes déjà sur le point de décrocher. Aidez celui à côté de vous. Alors les conséquences relationnelles du brisement sont lesquelles? Ce brisement va loin, à un point où, verset 22 du chapitre 2, Dieu dit que c'est trop profond, les conséquences. Verset 22, « Même si tu te lavais avec de la soude, avec de la lessive, tant et plus, ta faute resterait marquée devant moi. » Déclaration du Seigneur Dieu. Tu vas tellement enraciner dans leur faute qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Qu'est-ce qui leur attend? Quelles sont les conséquences pour eux de ce brisement? Alors, pour cela, on fait un saut vers le chapitre 4, ce que j'ai lu. Donc, chapitre 4, verset 5. Faites cette annonce en Juda. Faites-la entendre à Jérusalem. Dites-le, sonnez de la trompe dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Dressez une bannière vers Sion. Fouillez, ne vous arrêtez pas. Tout cela, pourquoi? Car je fais venir du nord un malheur et un grand désastre. C'est encore trop tôt dans le ministère de Jérémie pour pouvoir dire qu'il s'agit de Babylone, ce malheur du Nord, mais déjà ce malheur est annoncé. Et ce malheur est personnifié comme un lion au verset 7 du chapitre 4. Le lion s'élance dans son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il sort de chez lui pour réduire ton pays en un lieu dévasté. Tes villes seront des champs de ruines. Elles n'auront plus d'habitants. À cause de cela, mettez un sac pour pain. Lamentez-vous, hurlez. Pourquoi? Car la colère ardente du Seigneur ne se détourne pas de nous. Donc, vous voyez, le désastre est annoncé. Le Seigneur est en colère contre son peuple. Celui qui, selon l'Ancien Testament, s'est déjà montré à maintes reprises être un Dieu qui est lent à la colère. Et ce serait comment? Verset 13, il monte comme les nuages, ses chars sont comme un ouragan, ses chevaux sont plus rapides que des aigles. Quel malheur pour nous, nous voilà ravagés. Dans les versets 16 et 17, on évoque déjà l'assiègement de Jérusalem. À ce moment-là, tout le blabla des responsables en Israël cesseront. Verset 9, en ce jour-là, déclaration du Seigneur, le roi et les princes perdront courage. Les prêtres seront atterrés et les prophètes stupéfaits. Au lieu d'encore prendre la situation à la légère, au lieu d'encore prendre la situation comme il faut, ils disent, verset 11, tout ira bien pour vous, l'épée est déjà en fait sous la gorge. Ils avaient beau imaginer que l'idolâtrie ne comptait pour rien, mais ils avaient tort. Le jugement allait tomber. Et donc, nous aussi, comment est-ce que ce message s'applique à nous? Parce que Babylone n'y est plus. Il n'y a plus de menace du Nord dans ce sens-là pour nous. Alors, ceux qui vivent aujourd'hui, sans le moindre regard pour Dieu envers qui ils sont redevables, qui vivent encore sous l'esclavage d'autres maîtres, d'autres idoles, pendant un temps, oui, tout semble agréable. On se rappelle de Ève dans le jardin d'Éden. Elle mangeait, elle, le fruit défendu. Pourquoi ? Parce qu'elle vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle en mangea. Le serpent le faisait croire que rejeter Dieu, c'était la voie du bonheur. Mangez et vous mourrez, disait Dieu dans le chapitre 2 de la Genèse. Chapitre 3, serpent dit, vous ne mourrez pas. Il mentait et il ment encore. Car bien que nos idoles aient l'air séduisant, bien que j'arrive à croire que le péché est bon, c'est faux. Ça mène à la mort. La mort à un point que je suis, comme le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, incapable, laissé à moi-même, de m'en sortir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, peut dire que l'homme laissé à lui-même est mort à cause de ses fautes et de ses péchés. Et que nous soyons clairs, bien que Dieu soit compatissant et lent à la colère, le jour de sa colère viendra. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, de nouveau, versets 9 et 10, nous exhorte de nous détourner de nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, attendre donc son Fils qu'il a ressuscité. Car c'est lui, Jésus, dit ce verset, qui nous délivre de la colère à venir. Donc il y a encore le jour de la colère de Dieu. Et la merveille de notre foi, c'est que Dieu pourvoit lui-même le seul moyen d'être protégé lorsqu'il passe en jugement. Il pourvoit son Fils, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Comment est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il boit sur la croix la coupe de la colère de Dieu à notre place, afin que nous puissions boire de l'eau vive, pas une eau qui stagne dans une citerne, ni se perd quand il s'agit des citernes crevassées. Les conséquences, vous voyez, chers amis, de ce brisement, c'est le jugement. Mais si c'est Jésus qui nous sauve de la colère et pas nous-mêmes, cela nous rend, ceux qui connaissent le salut en Jésus, cela nous rend, nous, compatissants envers les autres. Car nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, j'espère que ce n'est pas le cas, comme si la victoire que nous avons, c'est grâce à nous. Non, nous nous tournons vers les autres comme des mendiants spirituels que nous nous sommes. Nous avons trouvé du pain et donc nous cherchons à ce que d'autres découvrent également du pain ou cette source d'eau vive. Et donc en conclusion, voyons brièvement avec moi le cœur brisé de ce prophète de malheur. Verset 18 du chapitre 4, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Voilà ce que t'en valut, ta voix et tes agissements, c'est là ton mal, oui, c'est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Et puis au verset 19, c'est Jérémie qui réagit. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit, je ne peux pas garder le silence, car j'entends le son de la trompe qui vient du nord, les acclamations de la guerre, on annonce désastre sur désastre. Tout le pays est ravagé, mes tentes sont ravagées tout d'un coup, mes abris de toile en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompe? Il est effrayé face à ce jugement. Il réagit de façon émotionnelle à propos de ce malheur qui guette son peuple. Il est affecté lui-même dans ses tripes par ce qu'il annonce, mais il doit l'annoncer. Il ne peut pas garder le silence. Mais en l'annonçant, il ne prend pas du plaisir à devoir le dire. Il y a beaucoup d'histoires à propos de un ministre baptiste du 19e siècle, Charles Spurgeon. Mais apparemment, l'une de ses histoires est celle-ci. Monsieur Spurgeon, disait un jeune prédicateur, un peu trop fier de lui-même, j'ai prêché l'enfer ce matin. L'as-tu fait avec des larmes aux yeux? L'as-tu fait avec des larmes aux yeux? Le Nouveau Testament dit de nous que nous sommes, si nous sommes en Christ, des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Comment est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Parce que nous savons ce que c'est la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Pas de nous-mêmes, mais de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est ça ce que nous annonçons. Nous annonçons cela parce que nous avons encore de la peine de savoir qu'il y a tant de personnes qui suivent des idoles dans l'aveuglement par rapport à ce Dieu vivant et vrai. Alors, dans un instant, bravo si vous avez pu me suivre jusque-là. Dans un instant, on va partager le repas du Seigneur ensemble à la fin de ce culte. Et on aura donc ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ce verset-là exprime pourquoi nous célébrons la scène. Avant de célébrer la scène, on va chanter un cantique de confession. Vous voyez, Seigneur, tu vois mon cœur. Pourquoi nous chantons ce chant-là? Parce que dans le refrain, nous disons « À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. » Nous sommes conscients que si nous tenons debout, c'est parce que nous sommes à genoux. Parce qu'il nous a graciés en Jésus-Christ. Donc je vous invite à vous mettre de...